Voice of Indonesia.
Bonsoir chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le samedi 1er juin 2019, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc les infos. Nous commençons avec les titres. Le gouvernement indonésien s'est intéressé aux investissements dans le secteur de la chimie et de l'acier. L'automobile japonaise est prête à produire les véhicules électriques en Indonésie. La compétitivité indonésienne augmente au 11e classement. La supervision de la réalisation de la construction d'une fonderie est serrée. Et enfin, le HUT promet le règlement présidentiel pour les véhicules électriques d'achever les Delphiter. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien s'efforce d'intensifier la coopération bilatérale avec le Japon dans le domaine économique, y compris l'augmentation des investissements dans le secteur industriel. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, dans une déclaration écrite parvenue au quotidien Republika vendredi. Le ministre de l'Industrie cible les secteurs de la chimie et de l'acier. Par conséquent, lors de sa récente visite de travail au Japon, le ministre Airlangga a rencontré un certain nombre de directeurs de grandes entreprises de ces secteurs. L'industrie automobile japonaise a exprimé son engagement à produire des véhicules électriques en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto lors d'une réunion avec les directeurs de Toyota Motor Corporation à Tokyo dans un communiqué officiel reçu par Antara vendredi. À la même occasion, le directeur général adjoint de Toyota Corp, Susumu Matsuda, a déclaré que dans le but de commercialiser des véhicules électriques, sa partie se concentrerait également sur le développement de sa technologie en Indonésie. La compétitivité de l'Indonésie cette année a augmenté de nouveau. Le développement massif des infrastructures est également l'un des facteurs à l'origine de cette augmentation. Comme l'a déclaré le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, dans une déclaration écrite vendredi. IMD a mentionné que l'augmentation du classement de l'Indonésie était le plus élevé de la région asiatique. Outre le développement des infrastructures, il y a trois autres facteurs qui sont également mesurés, à savoir les performances économiques, l'efficacité bureaucratique et l'efficacité commerciale. Le gouvernement renforcera la supervision liée au programme visant à accroître la valeur ajoutée des minéraux dans le pays en prévoyant des sanctions strictes pour les entreprises négligentes dans la construction des fonderies. Younus Saiful Haq, directeur du développement des affaires minérales du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, a récemment déclaré qu'il n'hésiterait pas à imposer des sanctions sous forme de révocation des recommandations sur les exportations de minéraux non purifiés pour les entreprises négligentes dans la construction de fonderies. Cependant, le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales donnera d'abord un avertissement. Le ministre de la Coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a promis que le règlement présidentiel sur les véhicules électriques serait achevé après les Delphiter. Il a déclaré que le brouillon du règlement présidentiel était arrivé au secrétariat du ministère d'État après la signature du règlement présidentiel par le ministère des Affaires maritimes. C'est ce qu'a affirmé Luhut Binsar Panjaitan à Jakarta. Le règlement présidentiel sur des véhicules électriques réglementera un certain nombre d'incitations pour encourager le développement des voitures électriques en Indonésie. Secrétaire, c'était les infos de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. La première info est en provenance de Maluku Central. Les musulmans au village Wakal, district Lehitu, l'île Ambon, en région Maluku Central, en province Maluku, ont commémoré mercredi la 27e nuit du Ramadan en allumant des centaines de bougies, lames et torches dans différentes régions. Des centaines de bougies, lames et torches ont commencé à être allumées par les habitants après le Maghrib et ne seront éteintes qu'à l'aube. La commémoration à Wakal a également été animée par des enfants et des adolescents de la région qui se sont promenés dans le village en portant des torches, tout en faisant le takbir et en chantant des chants joyeux à propos d'Eid al-Fitr. Éclairer le village avec beaucoup de lumière par les habitants de Wakal est une expression de gratitude et de joie pour l'ordonnance sur le Coran, qui est également interprétée comme une lumière d'illumination pour les musulmans. Ensuite, l'enfant de Denpasar, Bali. Vietjet, une compagnie aérienne privée basée au Vietnam, a officiellement ouvert une liaison aérienne entre Ho Chi Minh et Bali pour les touristes à partir de mercredi dernier, ce qui en fait le premier vol à servir cette route. Vietjet, en vol à bas prix basé au Vietnam, va servir les vols de la ligne Ho Chi Minh Bali 5 fois ou 5 jours par semaine, lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. La durée du vol est 4 heures de vol. Le dernier, l'enfant de Surabaya, Javaes. Le maire de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, a inauguré mercredi une statue géante de Suro, soit requin, et de Boyo, soit crocodile, à hauteur de 25,6 mètres à l'approche de 726e anniversaire de Surabaya, le 31 mai, dans la zone côtière nord du district Bulak, à la ville Surabaya, Javaes. Risma a affirmé que la statue de Suro et de Boyo était son rêve depuis longtemps. Selon elle, cette statue peut non seulement être vue de la terre, mais également de la mer. Par conséquent, la statue doit être haute pour pouvoir être vue. Fait intéressant, cette statue Suro et Boyo a une forme unique en forme d'arc indigène entre les deux statues. De plus, la couleur de la statue est différente de celle des statues Suro et Boyo existant étant l'une des icônes de la ville Surabaya. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er juin. Le 1er juin, l'anniversaire de Pancasila. La naissance de Pancasila était le titre d'un discours prononcé par Sukarno, l'initiateur de Pancasila, lors de la séance du Conseil préparatoire de l'indépendance le 1er juin 1945. Dans ce discours, le concept et la formulation initiale de Pancasila furent d'abord présentés par Sukarno comme base d'un État indonésien indépendant. Ce discours a été prononcé par Sukarno sans autre nom et a reçu le titre de naissance de Pancasila que de l'ancien président de l'agence d'investigation sur les affaires préparatoires de l'indépendance Rajiman Widyoningrat dans la préface de l'ouvrage contenant un discours qui avait ensuite été enregistré par l'agence. Pancasila est l'idéologie de base pour le pays d'Indonésie. Ce nom se compose de deux mots sanskrits, à savoir Panca signifie 5 et Sila signifie principe. Pancasila est une formule et une ligne directrice pour la vie de la nation et de l'État pour tout le peuple indonésien. Malgré des changements dans le contenu et l'ordre des 5 principes de Pancasila, qui se sont déroulés en plusieurs étapes lors de la formulation de Pancasila en 1945, le 1er juin a été célébré comme le jour de la naissance de Pancasila. Ensuite, la journée mondiale du lait. La Journée mondiale du lait est une journée de célébration visant à commémorer l'importance du lait en tant que menu alimentaire mondial et à donner l'occasion de soulever des questions sur les activités liées à l'industrie laitière. La journée de célébration, qui a commencé à être commémorée depuis 2001, est célébrée chaque 1er juin, a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ils ont choisi le 1er juin comme jour de fête parce que la plupart des pays, y compris l'Indonésie, célébraient le jour du lait à cette date depuis plusieurs années. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Voilà la chanson intitulée « Hanya Untukmu » ou en français « Juste pour toi » chantée par 10 to 5. Vous êtes toujours avec nous en Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et un petit titre, le Japon devrait participer à l'amélioration de la qualité des travailleurs indonésiens. Le ministre de la Coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a demandé au Japon de participer à l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre indonésienne dans les investissements du pays en Indonésie. Luhut Panjaitan a fait cette déclaration lors du troisième forum de dialogue entre le gouvernement et le dialogue privé entre la République d'Indonésie et le Japon qui s'est tenu à Jakarta mercredi. Une délégation japonaise conduite par le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Hiroshige Seko, a assisté à la réunion. Dans sa déclaration écrite, Luhut Panjaitan a déclaré que la principale priorité du gouvernement indonésien était d'accroître les ressources humaines. Par conséquent, le gouvernement indonésien a demandé qu'il soit assisté dans le développement des ressources humaines, en particulier de celles situées en dehors de Java. Selon Luhut Panjaitan, l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre ne va pas être séparée de l'objectif du gouvernement de créer le plus grand nombre possible d'emplois pour les travailleurs locaux à partir d'investissements étrangers. En réponse à cette demande, le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Hiroshige Seko, s'est déclaré prête à apporter son aide à la demande du gouvernement de la République d'Indonésie. Seko a déclaré que le gouvernement japonais et les entreprises japonaises avaient compris que l'Indonésie était un partenaire important. Ils ont donc fermement soutenu la demande du gouvernement indonésien d'organiser une formation pour les travailleurs indonésiens afin d'améliorer la compétitivité de l'Indonésie. À la même occasion, Kanji Tojo, président du Jakarta Japan Club, JCC, a déclaré que le dialogue privé et gouvernemental entre la République d'Indonésie et le Japon consistait à former 107 enseignants du secondaire professionnel à Medan, Lampung et Makassar. Tojo a ajouté que les enseignants ont reçu une formation de base et des exercices pratiques en machine, en électricité et en kaizen en février. Le troisième forum de dialogue gouvernemental et privé entre la République d'Indonésie et le Japon a pour objectif de discuter de plusieurs questions qui constituent des obstacles au climat de l'investissement en Indonésie. Cette activité a été lancée par les gouvernements et des deux pays et par de Jakarta Japan Club. Avant que le forum de dialogue commence, le ministre Luhut Panjaitan et le ministre Seko ont tenu une réunion bilatérale qui a convenu d'accroître la coopération économique et le développement des deux pays. Le ministre Seko a également apprécié la volonté du gouvernement indonésien de dialoguer avec les investisseurs japonais et de suivre les plaintes et les obstacles rencontrés dans les affaires en Indonésie. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga mengharap.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous venez d'écouter la chanson de Yofi et Nuno dont le titre est Menjaga Hati ou en français Garder le cœur. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel et un petit titre, Bena, le village culturel de l'époque mégalithique, Nusa Tenggara Est. Le village traditionnel Bena à Nusa Tenggara Est existe depuis 1200 ans. Ce village est l'un des villages qui conserve encore les coutumes et la culture locale. Le peuple vit toujours avec le patrimoine culturel et les croyances de ses ancêtres. C'est ce qui fait que le village traditionnel Bena a son propre charme. Cette destination du tourisme culturel se trouve précisément dans le village Tiworibu, district Jaribu, région Sengada, en province Nusa Tenggara Est. Le village Bena sur l'île Flores, à environ 18 km de la ville Bajawa, est situé au pied du mont Ineri, à une altitude de 2245 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, il y a environ 326 personnes qui sont une combinaison de 1020 familles. Chacun habite 45 maisons. La population provient de 9 tribus différentes, à savoir la tribu Bena, la tribu Ngada, la tribu Ago, la tribu Kopa, la tribu Dizi, Wahto, Dizi Azi, Deru Lalulewa et Deru Solamai. Chaque tribu vit dans une étape différente. En plus d'être considérée comme la plus ancienne des tribus, la tribu Bena est également considérée comme le fondateur du village. C'est pourquoi la tribu Bena occupe les marches au centre. Non séparés des symboles, les maisons qui se trouvent au village Bénin représentent également le reste de la civilisation mégalithique, décorée avec des cornes de buffle et des crocs de sanglier comme marqueur du statut social, chaque maison abrite des structures rocheuses en montagne. Dans la partie centrale du village, il y a aussi Ngadu, à savoir le rocher dominant, et Baga, un symbole de parenté avec les ancêtres, qui est ensuite devenu la culture et une partie de la communauté Bénin. Le village Bénin a une longueur de 375 mètres et une largeur de 80 mètres, avec des marches similaires à un bateau. La communauté Bénin est convaincue qu'un bateau est un véhicule capable d'amener les esprits au dernier lieu de repos. Le bateau symbolise également le travail dur et la coopération mutuelle. La vie des habitants du village Bénin est très simple. La population masculine cultive généralement des tubercules et des noix de pécan et du café, tandis que les femmes passent du temps à tisser et à vendre leurs produits tissés aux touristes qui viennent. Pour visiter le village traditionnel Bénin, les touristes doivent d'abord arriver à Kupang, puis poursuivre le voyage vers la ville Bajawa. De Bajawa, les touristes peuvent utiliser une moto de location pour se rendre au village Bénin. Les touristes peuvent voir et entrer dans le village Bénin de 8h à 17h temps d'Indonésie centrale, après avoir rempli le livre d'or et fait un don. N'oubliez pas d'apporter des vêtements chauds, car la température à Bajawa est assez froide. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Untuk
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Seventeen intitulée Untuk Mencintaimu, qui signifie pour t'aimer. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, une rubrique qui vous fournit les informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur informant sur le festival Padang Melang 2019. Du 17 au 21 juillet 2019, un festival intitulé Festival Padang Melang FPM Anambas aura lieu. Cette année, le festival se tiendra plus tôt que l'année précédente, car il coïncide avec l'éclat de la pleine lune qui s'illuminera le long de la plage Padang Melang. Cette activité est incluse dans le calendrier des événements des îles Riau et aura lieu à la plage Padang Melang dans le district Jemaja, île Riau. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré que la région frontalière de la province des îles Riau était très riche en attractions. Pour cela, il espère que l'organisation du FPM 2019 pourra attirer des touristes étrangers. Rizky Handayani, vice-ministre du développement du marketing touristique 1, a expliqué que la FPM 2019 a lieu dans le contexte de la beauté de la plage et des traditions culturelles des communautés côtières de Padang Melang. L'activité qui durera 4 jours est une collaboration de diverses traditions de cérémonies, attractions culturelles et jeux folkloriques avec les activités de plage actuelles. Le FPM 2019 sera animé par un long jeu de batterie, des attractions de village, des rimes, des truies de région et des inscriptions et processions traditionnelles de Petata Petitih Junjong pour refuser les renforts. Dans la soirée du 17 juillet, le FPM sera animé par la nuit culturelle de la côte malaise. Une performance culturelle typique du littoral marais. Les arts culturels présentés étaient des représentations de masques gubang, du syair gurindam, de la hadrah, des comédies dramatiques, diverses danses et chants, des chansons malaises d'Anambas. Le deuxième jour, des compétitions communautaires seront organisées, telles que la compétition de plongée gonggong, la course de canot, la compétition de coloriage pour les enfants et la compétition de cerf-volant décoratif. Dans la soirée, l'événement s'est poursuivi avec l'exécution du concours de rimes réciproques. Le troisième jour, un concours culinaire traditionnel des îles Anambas est lancé sur des stands culinaires. Le programme s'est poursuivi dans la soirée sur le thème Nostalgia Memory, qui présentera deux musiques d'époque tout en se régalant de durian. Le dernier jour aura lieu Fun Color Run, une compétition de marathon coloré. Le point de départ partira de l'île Berhala et se terminera à la plage Padang Melang. Toute la série d'événements sera ensuite clôturée par l'avenue d'artistes indonésiens. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Voilà la chanson de Drive, intitulée Bersama Bintang, qui signifie avec des étoiles. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, sur l'onde cœur de 3.3 de 5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Pour ce soir, nous vous présentons la chanson religieuse.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition va présenter une chanson religieuse intitulée Duha. La chanson publiée en 2010 parle d'espoir et des prières offertes au moment de Duha, c'est-à-dire une prière lorsque le soleil commence à se lever. Sahrul Gunawan a déclaré qu'il était très impressionné par la chanson intitulée Duha en raison des paroles. Cette chanson donnait également une expérience spirituelle extraordinaire à lui. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson dont le titre est Duha, chantée par Sahrul Gunawan.
Bumi Engkau mudahkan Tuhan. Ku tertunduk dan bersila, dua mata terpejam, husuk berdoa. Sajadah panjang basah terbentang, air mata menetes, mohon dikabulkan. Bila masih di
Voice of Indonesia.
Panjang terbentang, hamba mengingat di kau sepenuhnya.
Indonesia.
Menjadi
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Écoutez toujours notre émission sur l'onde courte de 33 de 5 kHz ou sur le site www.voynews.id. C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook de Voice of Indonesia. Au revoir!